programme qui va suivre vous est présenté par le Centre Missionnaire Philadelphie sur Avenue de la Science, Kinshasa Gombe. Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs.
Amen. Alors lisons d'abord Juges au chapitre 16. Nous lisons versets 4 à 6. Chapitre 16, 4 à 6, 15 à 21. Juges 16, 4 à 6, 15 à 21. Et puis nous lisons verset 25. Nous terminerons avec la fourchette allant du verset 30 au verset 31. Chapitre 16. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sénomé. Delila, d'autres versions disent Dalila. Dire, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres des loups. Nous donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi? Verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu t'aimer puisque ton cœur n'est pas? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où ta grande force. Et chaque jour, allez, tourmenté pour tes instances, son âme devient impatient à la mort. Tout son cœur et lui dit, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de tout autre homme. C'est ce qu'on avait rendu spécial. Et la voyant qui lui ouvre son cœur, en voyant appeler les Philistins, et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout. Ce prince des Philistins montèrent vers elle et apportèrent chant dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux. Soulignez bien ce passage, ça aura toute son importance tout à l'heure. Elle endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quelle douleur de lire le verset 21. Les Philistins les saisirent, lui crèvèrent les yeux. J'aimerais dire entre eux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Tourner la meule dans la prison. Verset 25. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson, qu'il nous divertisse. Voilà, toujours difficile à lire. Ils firent sur Samson de la prison et il joua devant eux. Il devient un joueur, un divertisseur. D'autres versions disent ça faire des bouffonneries, cirque. À l'honneur, Samson, l'ex-géant, l'ex-fort, l'ex-héros. Ils les placèrent entre les colonnes. C'est 30 à 31. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ce qu'il avait tué pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils enterrèrent entre Tzoréa et Skaol dans la sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant. Nous lisons ces longs passages. Je n'ai pas su faire la sélection entre trouver bon de tout lire. Proverbe 7, par le premier. C'est un conseil d'un père avec une illustration. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur doigt. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui lui emploie des paroles doucereuses. Maintenant vient l'illustration. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Une autre version dit un garçon naïf. Il passait dans la rue, près de l'angle où s'était une de ces étrangères. Il s'est dirigé lentement du côté de sa demeure. C'était le but, aller vers sa maison, retourner chez lui, faire un peu une journée de travail. Nous verrons à la fin, il n'est jamais arrivé chez lui. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle les saisit et l'embrassa. Un air effronté lui dit, je deviens un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher. Est-ce que tu me connais? Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, des tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche, des mûres d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Au moins, elle est sincère. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui les sacs de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle est séduisie à force des paroles et l'entraînant par ses lèvres doucereuses. J'ai toujours difficile à lire la suite. Il aurait pu dire non, je rentre chez moi. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui s'éclate dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, auparavant, il parlait à un fils, mais le contexte montre que plus il parlait à ce fils, d'autres enfants sont venus. Il a commencé par s'adresser à quelqu'un. Quand il a vu plus, il est allé droit au but. Maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tout ce qu'elle a tué. Il veut dire, c'est que celle que tu vois là, elle a un palmarès. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Depuis plusieurs semaines et plusieurs séances, 5 au total si ma comptabilité est bonne, nous parlons sur les thèmes des personnes à rencontrer et à ne pas rencontrer sur le chemin du destin. Et ce matin, comme vous l'avez vu dans vos pamphlets, nous allons parler de 2 personnes à éviter si possible, à tout faire pour ne pas rencontrer. Et si d'aventure on les rencontre, à ne pas tomber dans leur piège. Et pour ne pas tomber dans leur piège, demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à les identifier, à connaître leurs intentions cachées. Tout ce que les deux font, c'est détruire, faire dévier des trajectoires, écouter le plan de Dieu pour nous, faire de nous des sources de douleur pour ceux et celles qui nous entourent, enlever l'appui que nous sommes auprès de ceux qui s'appuient sur nous, enlever la source d'inspiration auprès de nos enfants. Ces 2 personnes, l'une est connue comme Delila, elle est d'origine philistine, mais l'autre n'est pas connue par son nom, de telle sorte que je l'appelais la prostituée, les Proverbes 7. L'une, le nom est connu, l'autre, le nom n'est pas connu. Mais les deux, les destructrices, les deux, dangereux, très, très dangereux. Il y a un certain nombre de choses que je voudrais dire concernant ces 2 femmes avant d'aller plus loin. C'est que la première a eu à détruire un homme à la force physique impressionnante. Un homme conçu après qu'un homme et une femme aient longtemps cherché Dieu. Un enfant qui est venu suite à une prophétie. Un enfant dont le parcours était tracé. Sa nature, sa vocation, mais le style qu'il devait mener. Cet enfant a changé les rapports de force entre 2 nations. Israël, qui était écrasé par les Philistins, a retrouvé du répondant. Ils ont levé la tête. Pourquoi? Parce que cet homme s'est levé. Cet homme dont la mission devait encore continuer pour que les Philistins soient écrasés. Il y a non seulement une défaite individuelle, mais derrière sa défaite, plusieurs affectés. J'aimerais vous dire, il y a des défaites qui ne seront jamais des défaites individuelles. Seuls, mais derrière vous, d'autres sont affectés. En détruisant cet homme, cette femme Delila, femme dangereuse, nation, elle annule, ou même arrête le plus Dieu pour son peuple. La deuxième a seulement détruit un jeune homme. Pourquoi je dis seulement a détruit un jeune homme? Qui, après une journée de travail, avait comme objectif, je rentre chez moi. Je suis fatigué. L'usine, le travail, les commerces, ça a été plein de fatigue. Et il voulait rentrer chez lui. Et il n'est jamais arrivé chez lui. Au lieu de rentrer chez lui, il est d'abord dans la maison d'une prostituée. Puis il a fini sans vie. Transpercé par une flèche. Et quand on voit la méthode utilisée, on voit qu'on avait affaire à une professionnelle. Elle n'a pas placé au ventre. Elle avait dit, organe, organe sensible. Il semble qu'elle est entraînée à cela. Où on forme les commandos, on leur apprend les, ce qu'on appelle les parties vitales, où il faut donner un coup, la personne est évanouie, où il faut simplement toucher et tout s'arrête. Et elle, on sent que c'est une professionnelle du mal. J'aimerais dire ce matin, les Delilah ne sont pas restés dans la Bible. Les Delilah, il y en a encore aujourd'hui. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes, les prostituées des Proverbes 7 ne sont pas restées dans la Bible. Il y en a encore ici des professionnels de la mort. Professionnels de la mort. Il y a quelques années, j'étais triste. 5 ans. J'étais invité par un aîné qui est médecin. À l'époque, il avait 65 ans, professeur d'université. Je l'ai connu full gospel où j'allais prêcher régulièrement. Il m'appelait toujours Baba Roland, je ne sais pas pourquoi. Il y avait deux à l'université, l'un de ses amis professeurs est décédé. Et alors que j'étais à ses côtés et qu'on faisait l'oraison funèbre, je l'ai vu verser des larmes. Il dit, Roland, en 18 mois, l'université de Kinshasa a perdu 5 têtes. 5 têtes, les meilleures. Et à cause d'un seul problème, la mauvaise gestion de la sexualité. Il dit, quand tous y meurent, on donne un communiqué avec la formule consacrée. Mort après une longue maladie. Il n'a pas de nom. Et quand il parlait, il dit, celui qui vient de mourir, il m'a montré un autre, celui-là aussi, il est malade. Les deux ont été contaminés par la même femme. Il s'est retourné vers moi et dit, Roland, garde. Roland, c'est mal et profond. Quand je parle ainsi, je pense encore à cette jeune fille que j'ai eu enterrée il y a 3 ans. Elle était en 3e année, et doctorat la dernière année en train de faire son stage, venant à l'église à un endroit, pas ici, convertie depuis longtemps. Et puis voilà, elle a rencontré un homme avec qui il était longtemps, qui est parti en Europe, qui était revenu, semble-t-il, ça faisait 7 mois. Elle dit, moi qui me suis gardé depuis ma conversion, 7 ans. J'ai commencé à aller visiter cet homme, pas toujours me localiser. Suis-je au home à l'université ou suis-je à la maison? Vous savez, les grandes filles libres. Et 3 fois, j'ai passé la nuit chez cet homme. Ensemble, les 3 fois. Elle m'a dit, la 3e fois, bon, elle me dit, qui m'a conduit? Bon, je vais croire que c'est l'esprit. Déjà le style de vie qu'elle menait, où elle s'est retrouvée. La 3e fois qu'on est allé ensemble, je ne sais pas. J'ai eu simplement le désir de soulever les lits et puis j'ai vu, je suis étudiante à me sentir rétrograde. Je les connais par les noms, je sais ça. Vu combien c'était ouvert, ça montrait que ça... régulièrement. Il dit, mon sang s'est refroidi. Quand il est revenu, je lui ai montré... Vous savez, les hommes savent mentir. Il dit, c'est pour un ami. Il m'a donné pour garder. Et ces capsules qui manquent, il me les avait données. Je vois son désarroi. Pasteur, et pourtant, je me suis gardé. Elle a commencé à se plaindre en incriminant Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il laissé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a amené? Je vois tremblante. Elle est allée passer le premier examen. L'examen l'a passé, elle était séropositive. Mais elle a dit, peut-être ça peut se tromper parce que, vous savez, les examens qui ne durent pas, je ne connais pas trop les termes médicaux, où ils font, ils utilisent des sortes de réactifs. Elle dit, j'aimerais faire les examens avec d'autres réactifs. Une semaine, elle a dit, pasteur, en une semaine, j'ai perdu 8 kilos. Attendre l'examen et attendre l'examen. 8 jours après, séropositive encore. Et quand elle est allée, on lui a dit, tu dois te mettre rapidement sous trithérapie parce que la souche que tu as, c'est une souche forte. Et il a compris que cet homme devait être malade depuis longtemps. Malade depuis longtemps, mais amenant quand même une jeune fille sur son lit, l'appelant chérie, elle n'aurait pas découvert ça, elle ne saurait pas où c'est venu. les tueurs et les tueuses professionnelles, il y en a, qui tuent froidement. Je revois encore en 2004, je finis de prêcher ce dimanche à la bonne, alors que j'étais en train de prêcher. Durant les 50 minutes de prédication, j'ai vu cet homme qui était assis devant, avocat, célèbre à l'IPEN. Il est sorti en 50 minutes de prédication, au moins 5 fois, il partait et il rentrait. Et dès que je fis la prédication, il m'a suivi et dit, pasteur, j'aimerais te parler parce qu'il est mort en 2005. Il a dit, je prie que Dieu me pardonne. Il dit, ça fait 6 ans que je sais que je suis séropositif, mais je ne sais pas si j'ai infecté moins de 200 jeunes filles. Il dit, ça fait 5 mois que je commence à prier ici, que Dieu me pardonne. Et vous savez, la meilleure, Dieu l'a pardonné. Et vous savez, la meilleure, il ira au ciel. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Mais vous qui ne savez pas retenir votre corps. Il a dit, pasteur, quelquefois pour 100 dollars, des jeunes filles étaient prêtes à aller avec moi sans protection. Je l'ai accompagné jusqu'à ses derniers jours. Je l'ai vu la veille de sa mort. C'était pas beau. J'aurais voulu qu'on prenne ces images. Son corps s'est décomposé. Il avait des plaies. Il était devenu comme un léopard. Vous qui croyez que c'est l'imaginaire, j'aurais voulu quelquefois qu'on amène ces photos ici. J'aurais voulu comme quelqu'un visiter les gens qui sont dans la phase finale des sida, Mama et moi. J'aurais voulu qu'on amène certains jeunes en pèlerinage, qu'ils voient cela. Ou que vous nous fassiez un syndrome imaginaire pour décourager les... Dans Proverbe 7, 1 à 5, et puis versets 25 à 27 que nous avons lu, nous voyons qu'un père se sert de cette histoire authentique qu'il a personnellement vécue, parce qu'il dit, je me tenais à ma fenêtre et je vis. Il se sert de cette histoire pour dire à ses enfants, faites attention. Il dit, mon fils, retiens mes paroles, garde avec toi mes préceptes, observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Et moi, ce matin, je prends ma responsabilité comme père. Je vous dis, mes enfants, gardez-vous. Gardez-vous sexuellement. Je prends ma responsabilité comme berger. Je dis, les enfants que Dieu m'a donnés, gérez votre corps et votre sexualité. J'aimerais dire à quelqu'un, ta longévité dépend de la manière dont tu vas gérer cet organe. J'aimerais dire ce matin, quelqu'un qui n'écoutera pas ce message, dans quelques mois, dans quelques années, il s'en souviendra sur un lit de maladie. Je prie que ça ne soit pas le cas, parce que vous pouvez éviter cela. Ce matin, je viens de la part de Dieu pour faire 3 choses. La première, poser à chacun de nous 2 questions essentielles. Ça, c'est la première des choses pour laquelle je me tiens du haut de cette chair. Et la première question que je te pose, je me pose moi-même, Christ est-il le Seigneur de ton sexe et de ta sexualité? J'aimerais que tu m'aides à poser la question à ton voisin en mon nom. Christ est-il le Seigneur de ton sexe et de ta sexualité? Ah, je sais que tu viens à l'église. Je sais que tu prêches l'évangile. Je sais que tu chantes. Je sais que tu évangélises. Je sais que tu fais partie de l'intercession. Mais la grande question, Christ est-il le Seigneur de ton sexe et de ta sexualité? Ah non, tu vas me dire, pasteur, moi je fais partie du groupe d'adoration. Mais ce que j'aimerais savoir, Christ est-il le Seigneur de ton sexe et de ta sexualité? La première question que Dieu a de vous poser. Deuxième question que Dieu m'a dit de vous poser ce matin. Ton sexe et ta sexualité, c'est-à-dire te dominent-ils ou tu les domines? J'aimerais le répéter. Ton sexe et ta sexualité, est-ce que tu les domines ou ils te dominent? Est-ce que tu es la locomotive, la sexualité des wagons, c'est toi qui leur donne une impulsion, on dira, vous n'irez pas là, vous irez de tel côté, c'est l'inverse. C'est ton sexualité qui sont la locomotive et qui te pousse, qui t'amène à aller n'importe où. Je vais peut-être choquer certains, mais j'en parle. Je parlais avec un homme, et il m'a fait, apparemment ça fait rire, mais relateur, il a dit, pasteur, moi je suis sauvé de là jusque là. Mais de là-bas, je ne suis pas sûr. J'aimerais te poser la question. Toi, tu es sauvé juste. Seigneur, de là jusqu'à la ceinture, Et le reste, tu ne sais pas assurer que c'est Seigneur. Ta sexualité et ton sexe, ça te domine ou tu les domines. La deuxième raison pour laquelle Dieu me fait tenir ce matin, c'est arrêter quelqu'un qui est sur le doigt s'embarquer dans une direction. Tu t'es gardé tout ce temps. Tu as voulu marcher d'une certaine manière, mais vois-tu, tu as comme des impulsions qui veulent t'arrêter, te pousser. J'aimerais te dire, parce que c'est la mission que Dieu m'a donnée, il m'a dit de te dire comme le feu rouge, il dit, stop! Arrête-toi! N'avance pas! Ça sera pour ton bien. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, c'est que Deux Rois, chapitre 4, verset 40, dit, alors que ces jeunes gens étaient en train de vouloir manger ce potage, l'homme de Dieu est venu crier, la mort est dans les pots. La mort est dans les pots. Je suis venu dire à quelqu'un, la mort est dans ce que tu veux commencer à faire. Troisième raison pour laquelle je me tiens du haut de cette chair, donner à quelqu'un un dernier avertissement. Alors Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à quelqu'un de changer de style de vie. Sinon, il m'a dit de te citer ce passage du nombre 32, 23. Ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Une autre version dit, ton péché produira ses effets négatifs qui sont cachés en lui. Ton péché va te détruire. Une autre version dit, sache que votre style de vie, fait d'absence de sobriété, produira l'investissement. Et ce matin, avant d'étudier ces deux personnes, à ne pas rencontrer Delila, ainsi que la prostituée, les Proverbes 7, j'aimerais faire deux choses. Ces deux choses, c'est dire à qui je m'adresse. C'est-à-dire, quel est mon public cible. Et la deuxième des choses, dire un mot sur la pensée de Dieu et la pensée de la Bible sur la sexualité et sa gestion. À qui je m'adresse ce matin? Ce matin, Dieu m'envoie pour m'adresser à trois groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, ce sont des jeunes gens pas mariés. Et vous êtes ici nombreux à Philadelphie. Et dans ce groupe qui ne sont pas mariés, il y a trois sous-groupes. Celles et ceux qui n'ont jamais touché ou goûté à la sexualité. À eux, je dis, gardez-vous comme vous vous êtes gardés jusqu'à présent. À vous, je dis, conservez ce précieux trésor que Dieu vous a donné. À vous, je dis un peu comme Apocalypse dit que celui qui est saint se sanctifie encore. À vous, j'aimerais vous dire, vous ne perdez apparemment rien. Bien au contraire, vous gagnez. À vous, j'aimerais dire, comme l'apôtre Paul a dit à son fils dans la foi, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. À vous, j'aimerais aussi donner une parole d'encouragement. Celui qui se tient devant vous s'est marié à 28 ans et quand il s'est marié, il n'avait jamais touché une jeune fille. La première fois, c'était dans les mariages. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu lui fait la grâce, après 22 ans presque, de n'avoir touché que celle-là. C'est difficile, mais c'est possible. La planète Mars. D'où je tire ça? Je tire ça aussi de mon pasteur, dont le corps repose maintenant à Boma. Lui-même qui s'est marié à 22 ou à 23 ou 24 ans, sans avoir connu de femme. Et j'aime, tout au long de son parcours, jusqu'à 50 ans de vie de couple, il disait, je n'ai jamais connu d'autre femme. Si ce n'est celle-là. J'ai mis un jour, quand l'une de mes filles est venue vers moi en me disant, papa, j'aimerais aussi me garder comme toi, tu t'es gardé. Deuxième sous-groupe, celles et ceux qui ont eu à commencer à découvrir la sexualité avant leur conversion. Ils ont ouvert ces précieux cadeaux. Ils n'ont pas eu beaucoup d'expérience, mais peut-être avancé une, deux, trois fois. Ils ont commencé à être actifs. Ils ont commencé à prendre goût et puis Christ est venu. À eux, je me redis, ressaisissez-vous et rentrez sur le bon chemin. Un troisième sous-groupe, des jeunes gens pas mariés. Et dans ce sous-groupe, il y a seuls ceux qui, avant la conversion, étaient très actifs sexuellement. On n'en a pas l'idée. Il arrive des fois, il y a des jeunes gens qui ne sont pas mariés, qui sont plus actifs sexuellement que nous les mariés. Hyper actifs. À vous, j'aimerais dire, je sais que c'est psy. Mieux vaut ne pas commencer cette vie que de la commencer et de se retenir. Parce que dans la mémoire, il y a des souvenirs. Plein de choses qui remontent. Mais Dieu fait grâce. Capable de se tenir. Il rend capable. Il y a un autre sou pour lequel je ne voulais peut-être pas penser, mais je l'ai ajouté comme appendice. Seul, et ce, tout en venant à l'église, et même en assumant des charges et des responsabilités, sans être marié, sont actifs sexuellement. Dieu sait qu'ils sont là. Dieu sait que peut-être ils sont comme moi, ils prêchent. Dieu sait comme moi, peut-être ils chantent dans notre chorale. Je prie que ça ne soit pas le cas. Dieu sait qu'ils font partie de notre protocole. Nous les voyons célibataires à nos yeux, mais spirituellement mariés. À cela, j'aimerais vous dire trois choses. La première, je suis triste pour vous. La deuxième, si vous êtes là, je ne vous connais pas, et même votre voisin ne vous connaît pas, j'aimerais vous dire, je suis triste d'être votre pasteur. Je suis gêné d'être votre pasteur. J'entends ta conscience te dire, oui, c'est toi. Quand je te regarde, j'ai envie de cracher, j'ai envie de dire, quoi? J'aimerais aller plus loin. Je suis humilié de t'avoir comme membre. J'aurais voulu que les places, que les gens comme toi ne soient pas ici. Venant à l'église, mais vivant dans la licence. Servant Dieu, mais ouvrant à n'importe qui. Changeons les habits. Venant à l'église, servant Dieu, mais jeune homme alla présenter son corps près de n'importe qui. Honteux. Et je voudrais aussi vous dire, ce n'est pas trop tard d'arrêter. Ce n'est pas trop tard de revenir sur le champ. Mon deuxième public cible sont des personnes mariées. Et dans ces groupes de personnes mariées, il y a aussi trois sous-groupes. Le premier sous-groupe, des hommes et des femmes fidèles à leur conjoint, à leur conjointe, depuis qu'ils se sont connus, depuis qu'ils se sont mariés. Le sous-groupe qui reste fidèle des tentations derrière. Parce qu'il n'y a pas de sollicitation. Je me dis c'est qu'Apocalypse 22, verset 11, la partie que les justes pratiquent encore la vie. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Je me redis ces choses et j'aimerais vous dire si vous êtes là, je suis où. Si vous en avez la possibilité aujourd'hui, ou en train de saluer les gens, venez me saluer. Et dites-moi, pasteur, je fais partie de ça et je prononcerai une parole de bénédiction sur vous. Fier de vous. Fier de vous avoir comme membre. Le deuxième sous-groupe parmi les mariés, des hommes et des femmes mariés, mais qui sporadiquement et accidentellement violent et brisent l'alliance. Ils vont en dehors. À vous, j'aimerais dire aussi, arrêtez! Vous faites mal à vous-même. Vous faites mal à votre conjoint ou à votre conjointe. Vous faites mal à Dieu. Et vous faites aussi mal à votre église et à votre pasteur. Que c'est triste surtout d'avoir des hommes et des femmes qui assument des passeurs des responsabilités à quelques niveaux. Nous, on n'est pas là quand vous trichez avec cette jeune fille. On n'est pas là quand vous trichez avec cet homme. Mais quand vous trichez avec lui, avec elle, et qu'elle vient ici, elle vous voit assumer des responsabilités, dit quelle église. C'est lui là. Diacre. J'ai entendu une qui a dit, pasteur, si lui peut être diacre dans votre église, moi je ne serai pas proféminé dans votre église. Cet homme qui triche avec vous, cet homme qui est marié, et quand il vient dans l'église, il jette un coup d'œil dans la chorale, il vous voit lever les mains. Il dit à son ami, il y en a troisième à partir. Ah, moi je rigole pas. À vous, j'aimerais partager cette parole de Dieu à son peuple dans Jérémie 7, 3. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ces dieux. J'aime le Dieu qui ne rejette pas. Il dit, vous faites mal. Mais je vous donne une chance, permettez-moi le terme, réformez vos voies. Revenez à la fidélité. Troisième sous-groupe sont des hommes et des femmes mariés, mais dont l'adultère est un style de vie. Et ils ne tombent pas accidentellement, ce sont des tombeurs professionnels. Ils tombent tellement qu'ils font même des repentances par procuration. Parce que quand ils tombent, ils doivent chaque fois venir se repentir. Nzambe, na bouina se pas pardonner belé, na juillet déjà na rokoué en balé belé na août. Limbisa, limbisa déjà. La chute est un style de vie. La légèreté est un style de vie. Un style de vie qu'ils ont adopté, qu'ils tolèrent et qu'ils essaient de fortification. Vous savez, les gens, quand ils veulent se conforter dans leur mal, ils les projettent sur les autres. Le problème, c'est qu'on veut se conforter dans le mal. J'aimerais dire, convertis-toi. C'est là que nous tous, nous faisons ça. Moi, j'ai dit oui à Viviane le 17 octobre 92. Depuis lors, je n'ai jamais touché à quelqu'un d'autre. Et Dieu m'aide et je ne toucherai jamais. Dieu me soutient, Dieu me garde. Alors quand je dis ça, je ne dis pas que je n'ai jamais été tenté, ça sera faux. C'est parce que quand je vois d'autres femmes, je vois comme si ce sont des autos blindées qui marchent ou je vois des sosa comme non. Je peux voir et apprécier, mais je dis moi, c'est Jiba, Malemba, Abou, Pia. À vous aussi, qui venez à l'église, mariés hommes, mariés femmes, mais vivant dans la licence, je vous dirai aussi ces quatre choses comme à ces jeunes gens. La première, je suis triste pour vous. La deuxième, je suis triste pour votre conjoint, votre conjointe, parce que vous mentez. Déjà, vous violez l'alliance, mais derrière l'impureté, derrière l'adultère, il y a toujours les mensonges. Une femme m'a dit, pasteur, chaque fois que mon mari rentre, je sais voir les sous-vêtements. Permettez-moi de parler certaines choses. Vous savez, quand un homme est allé, un peu comme quand on est allé au petit maison, il y a toujours les restes. Quand il rentre, on sait voir ça. Ça montre qu'il a été quelque part. Et Eddie le comble, il se met à nier en prenant du laï, laï, laï. Il a eu quatre amis tout. Les mitou, mingé katana. Je suis triste pour votre conjoint, votre conjointe. Triste pour elle par rapport au mensonge. Mais triste pour elle parce que vous la mettez en danger. Que des fois dans les ministères, je pense à cette femme de Goma, 16 ans, elle s'est mariée avec son homme, elle n'a jamais connu d'autre homme. Cet homme est allé ramasser la maladie dehors auprès d'une secrétaire. Nous les hommes, on est bizarres. Tu es là au travail, une secrétaire surgit de nulle part. Tu ne sais pas avant qu'elle vienne qui était son ex et l'ex de son ex. Et tu commences à la regarder, les genoux se cognent. Et tu perds la tête. Ah, je ne voudrais pas que l'avenir de mon épouse et de mes quatre princesses que Dieu m'a données s'arrête parce que papa n'a pas su résister aux belles jambes. Et puis après, les belles jambes. Puis les courbures du corps. Et puis après, pour 3, 4, 5 minutes de plaisir, tu vas faire priver un avenir, une source de revenus. Triste pour votre conjoint, pour votre conjointe. J'aimerais aussi vous dire, je suis déçu de vous avoir comme membre. Je sais que vous êtes conforté parce qu'on est dans l'anonymat. J'aurais voulu, comme les jours de la Pentecôte, que Dieu mette des langues comme des langues de feu sur les têtes des impudiques pour que je les voie et que même l'Église les voie. La seule chose qui vous conforte, c'est l'anonymat. Mais Dieu vous connaît. Car le Dieu de la Bible est capable de voir une fourmi noire dans la nuit la plus sombre. Vous me trouvez dur ce matin. J'aimerais vous dire, derrière cette dureté, c'est l'amour de Dieu. Je vous aime de la sorte. Je vous aime tellement que ce message vous est vaincu. Dieu m'a dit de dire à un homme, si tu n'as pas aujourd'hui, dans quel je viendrai te visiter sur un lit. De la maladie. Retiens bien cette date. Je prie que ma prophétie soit changée de style de vie. Je prie que ma joie, ce n'est pas que cette prophétie s'accomplisse. Parce que quand Dieu parle, le but, c'est d'avertir. Et quand quelqu'un change de style de vie, Dieu peut arrêter son jugement. Mais quand j'aimerais vous dire aussi que ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. vous pouvez réformer, changer de style de vie. Ézéchiel 33, verset 11, en voyant son serviteur en disant, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est ça le cœur de Dieu. Il veut que tu changes. Il veut que tu ne sois pas dans toutes ces choses. Il veut que tu n'ailles pas dans cette direction. Troisième groupe de gens sont des personnes qui ne sont plus mariées. Et là, je parle de veufs, de veuves, mais aussi des divorcés. C'est-à-dire des personnes pour qui une raison ou une autre ne sont plus dans une vie de couple. Des fois, on ne parle pas d'eux. Mais ma petite expérience dans la pastorale m'a montré qu'elles sont des personnes vulnérables. Très vulnérables. Parce qu'elles étaient actives ou actives sexuellement. Et subitement, pour certaines raisons, subitement la sexualité s'arrête. Pour certains, comme me disait le pasteur Vernon, la sexualité était comme une nourriture. Et tu as la nourriture à côté, tu as faim, tu te sers. Et subitement, il n'est plus là. Elle n'est plus là, mais la faim va s'inviter. Ce sont des personnes qui, la plupart des fois, deviennent des proies. Des proies des amis de leur mari. J'ai parlé un jour avec une femme. Elle est venue me parler en pleurant, en disant, une veuve, je suis tombée avec un des amis de mon mari. Elle m'a dit, pasteur, il n'est pas venu me chercher. Je l'ai provoqué. C'était plus fort que moi. Ah, ce n'est pas parce qu'il meurt que l'instinct sexuel s'arrête. Et vous qui avez décidé, je ne sais pas pour quelle raison, il vous a laissé tomber, elle vous a laissé tomber, gardez-vous en attendant les mariages. Je parlais une fois, je pense il y a 12 ans, avec cette jeune fille, elle me parlait, elle pleurait, elle dit, pasteur, s'il fallait punir les mamans, les mettre à genoux et les cogner, et ça fait se séparer de notre papa. Mais chaque semaine, nous voyons une nouvelle tête qui vient passer là. Dit dommage, car elle va prendre ma bétara. Ban. Tout le monde fou comme ça, ma maman. On parle de ma pili-pili. Ce jour, je me souviens, cette jeune fille m'a parlé au bureau. Elle m'a dit à la cour de récréation, dans une grande école de la. Elle s'est échangé les paroles avec son ami. Son ami lui a dit, maman n'a omoulasso. La mère une prostituée. Une femme de 42 ans, il est sorti avec mon frère de 28 ans. Je disais, pasteur, si je pouvais cogner maman ces jours-là. Et ces jours-là, je suis rentré, elle voulait me faire la bise, je l'ai poussée. Elle m'a servi la nourriture, je ne voulais pas prendre. J'aurais voulu être partout, sauf à la maison. Maman, cherchez le respect de vos enfants. Si vous êtes tellement mauvaise, bon, tu ne peux que faire ça. Fais ça loin des enfants. Ces personnes, j'aimerais vous dire, arrêtez. Si vous voulez que Dieu vous donne une seconde chance parce que vous la désirez, mettez-vous dans des conditions que Dieu vous donnera une seconde chance. J'entendais une qui disait, pasteur, so quand zamba pissinga imoratik, et tikana non zamba ou pesal. J'aimerais aussi partager la pensée de Dieu sur la sexualité. Il y a 5 pensées. La première pensée, c'est que le sexe et la sexualité viennent de Dieu. La sexualité ne vient pas du diable. Genèse 1, verset 27 et verset 31 nous montre que Dieu a créé deux êtres sexués. Dieu créa l'homme et créa la femme. Vous pouvez vous imaginer, dans tout ce que vous avez dans le corps, c'est Dieu qui l'a façonné. Dieu a façonné l'homme avec un sexe extérieur. C'est Dieu qui a façonné la femme en disant qu'à tel âge, elle aura une poitrine, à tel âge, elle aura telle chose. Et souffrez que je parle ce matin, c'est Dieu même qui a pensé le plaisir sexuel. Il a placé ce qu'on appelle les zones érogènes en disant si on touche là, ça va procurer ça. Si on fait ça, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses. C'est Dieu qui a placé. Un jeune homme vient un jour dans mon bureau. Oh, pasteur, non, qui osa rana Nguya. Toi, tu es pour ça. Impose-moi les mêmes apostes. Je dis si je prie aujourd'hui, Ekende, tu viendras encore un jour, pasteur. Sambe les ongles. Que ça revienne. Le problème n'est pas leur présence, le problème est leur gestion. Il créa l'homme et la femme. Et la Bible dit, Dieu vit que cela était très bon. Quand il crée la femme, lui-même disait ça. Quand l'homme verra ça, Et cette partie, wow, il a placé les ingrédients qu'il fallait. Il s'est retourné vers l'homme, il dit, je ferai ça. Ça produira tel effet, c'est Dieu. Et là, Dieu vu que cela était très bon. Et dans Genèse 1, 28, lui-même a donné les premiers coups de sifflet des premiers rapports sexuels. Il crée Adam et Ève, il dit, multipliez-vous et soyez féconds. Est-ce qu'on s'est multiplié en jouant aux billes? Il voulait dire, allez ensemble. La sexualité n'est bonne que quand c'est Dieu qui donne l'ego. Elle n'est bonne que quand la main de Dieu est derrière. Deuxième principe, c'est que la Bible définit les sexualités, les mariages. Deux conjoints par les liens sacrés du mariage. Pas entre amis, pas entre copains, pas avec une prostituée mariée, pas avec une femme mariée, les enfants de ton copain, pas avec tes nièces. De Samuel, chapitre 13, nous parle de Tamar, sexuellement désirée par son frère. Remarquez qu'elle n'est pas contre l'exercice de la sexualité, mais elle désire le cadre. Elle dit, tu veux de moi? Va demander à papa. Il ne va pas refuser. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que papa accepte et qu'on dise officiellement, vous êtes femme, allez-y. Où vivez-vous votre sexualité? Dans quel cadre? Dans plusieurs passages de la Bible, la sexualité illicite est clairement condamnée. Galates chapitre 5, verset 19, classe l'impudicité, la débauche, la fornication parmi les fruits de la chair. Galates chapitre, Genèse chapitre 39, verset 9, nous montre l'exemple d'un jeune homme, Joseph il s'appelait. On le sollicite pour la sexualité, mais il utilise des raisons, il dit, tu appartiens à quelqu'un. Il m'a donné tout sauf toi. Mais j'aime encore, il trouve les intérêts de Dieu disant, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph, où est Dieu dans ça? Toi et moi, on aura du bon temps. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Le verset n'était pas encore mentionné. Mais Joseph sûrement connaissait la révélation. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous puisse garder son corps dans la sainteté en s'éloignant de l'impudicité. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 20. Après la conférence de Jérusalem, l'Église a levé des options sur des choses qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas imposer la loi de Moïse. Il ne fallait pas manger les animaux étouffés. Mais on dit aussi s'abstenir de la débauche, de la licence sexuelle, qui est des prétendus sauvés, mais immoraux, légers sur le plan sexuel. Troisième principe, la Bible encourage et parle des bienfaits de la sexualité, mais dans le cadre du mariage. 1 Corinthiens 7, verset 3 et verset 5, que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même. Ça, c'est la Bible. Le verset 5 va même plus loin. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, pour vaquer à la prière, puis retourner ensemble. C'est la Bible. La Bible ne cache pas. Genèse 4, verset 1 à 2. Et Adam connut Ève, sa femme. Il est étonnant. Je fais l'étude dans la parole de Dieu. Chaque fois que la sexualité est bien vécue, on parle de connaître. Et chaque fois qu'elle est mal vécue, on parle de coucher. Dans le terme coucher, on veut parler de l'exercice de la sexualité sans lien et sans sentiment. Quelle est votre sexualité? Dans quel cadre? Proverbe 5, 8, la Bible dit, jouis de la femme de ta jeunesse. Une autre version dit, profite-en de la femme de ta jeunesse. Genèse 24, verset 64, parle du bienfait de la sexualité dans la vie d'Isaac. Isaac avait perdu sa mère. Et puis voilà, Dieu, le canal d'Abraham a envoyé Eliezer chercher. Et quand cette femme est venue, la Bible dit, dans sa tente, il aima et il fut consolé de la mort de sa mère. Il dit, c'est bien. Ça fait du bien. Proverbe 5, nous montre qu'il est totalement interdit qu'il aille ailleurs que dans sa femme. Les sources doivent-elles se répandre au dehors? Doivent-ils couler sur les places publiques? Seigneur, garde mes ruisseaux de couler ailleurs. Christ à faire couler partout. C'est honteux d'avoir un homme marié, 20, 30, 40 autres peuvent s'élever, croiser sa femme en disant, elle pense être la seule. Parce que je l'ai déjà vu comme un ver de terre. Je ne dis pas dans le cadre médical quand on va piquer. Regarde-moi les yeux. Quatrième principe, la Bible nous parle des conséquences d'une vie de licence sexuelle dans le temps et dans l'éternité. L'immoralité sexuelle est présentée comme un péché grave contre Dieu, contre soi-même et contre son conjoint. 1 Corinthiens 6, verset 18 dit, fouillez l'impudicité. Dites avec moi, fouillez l'impudicité. Soyez les prédicateurs adjoints ce matin. Dites à votre voisin, fouille l'impudicité. On ne dit pas lis l'impudicité. On dit fouille. Fouillez l'impudicité. Et la Bible ajoute, quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Hébreux 13, 4 dit, Dieu jugera les impudiques et les adultères. 1 Corinthiens 6, 9 dit clairement que les impudiques et les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous venez à l'église, vous avez des responsabilités. Si vous faites ces choses, à moins que vous ne vous repentez, vous vous faites candidat pour le feu éternel. Il est même possible que l'enlèvement vienne vous trouver en pleine tricherie. Cinquième et dernier principe, la Bible présente les rapports sexuels comme un moyen de transmission et de possession démoniaque. Un moyen de transmission et de possession démoniaque. 1 Corinthiens 6, verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attaque, qui s'attache plutôt à la prostituée est un seul corps avec elle. » Mon pasteur expliquait ça bien. Il dit, « La sexualité n'est pas seulement un contact physique, c'est aussi un contact spirituel. » Et mon pasteur expliquait ça avec une image de la physique. On parle du principe des vases communicants. Il y a un vase plein de liquide et un deuxième vase et on crée une communication. Là où c'est vide, dès qu'il y a la communication, à partir de ce qui est là où c'est plein, va se déverser. Tu auras les démons de l'Équateur, des Bolobos, alors que tu n'es jamais allé là-bas. On rigole. Et quand nous faisons la délivrance, nous retrouvons ces choses. La voie sexuelle, c'est une voie de transmission. Quelquefois, tu t'étonnes. Commence pas. J'écris, j'ai l'honneur, mais que nous avons les regrets. Ça ne marche pas. Avec qui tu t'associes? Jeunes gens, vous voulez vous parvenir dans les quartiers. Tu es avec tes amis, tu dis, Nana, tu dis, déjà, Matondo, déjà. Pas champion. Mais j'aimerais te dire, déjà. Les démons de Loubefou, déjà. Les démons de Bolobo, déjà. Tu ne perds rien en te gardant. Tu as plus à gagner qu'à perdre. Si délire la prostituée, les proverbes 7 font beaucoup de mauvaises choses. À la fin, nous voyons, elles détruisent des vies. Je pensais prêcher le message dans la totalité, mais je me rends compte qu'il y a encore beaucoup à dire. Nous voulons nous continuer la séance prochaine. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, change de style de vie. J'aimerais nous inviter à baisser notre tête dans la vie.
Je suis